Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc aujourd'hui parler de l'observation de la Lune depuis la Terre. Alors la première question, la première partie parle de la face cachée de la Lune. Donc première question à point 1, établir l'expression de la période de la révolution, donc notée comme d'habitude pour une période de révolution T majuscule, donc TL pour Lune, autour de la Terre, puis calculer sa valeur. Alors pour ça on revient aux fondamentaux, donc on veut un temps, une période. On nous donne dans les données une vitesse, donc il faut se rappeler le lien toujours entre vitesse et le temps et la durée. Donc la vitesse, c'est la distance sur une durée. Et donc ici, donc, on veut le temps. Donc la Lune parcourt ce périmètre donc dans sa trajectoire circulaire pendant une durée donc, qui est une période de révolution. Et donc on a finalement que TL, c'est donc la distance parcourue du périmètre sur la vitesse. Alors comment on exprime en maths un périmètre? Donc c'est 2 pi fois le rayon. Et le rayon ici, c'est la distance moyenne Terre-Lune notée DTL. Donc ce qui nous donne TL égale 2 pi fois DTL sur V. La vitesse nous est rappelée là ici, l'expression de la norme du vecteur vitesse du centre de la Lune sur son orbite. C'est racine carrée de G fois MT sur DTL. Donc ce qui nous donne finalement que la période de révolution TL est égale à 2 pi fois DTL sur racine carrée de GMT sur DTL. Alors, on peut tout petit peu simplifier cette expression, comme on voit qu'il y a DTL deux fois dans l'expression. La méthode qu'on a déjà vue à maintes reprises, notamment pour vérifier, ça peut être la troisième loi de Kepler, on met au carré. Donc ça nous donne TL au carré est égal à 2 pi fois DTL au carré. Donc ça nous permet d'enlever la racine carrée sur g fois mt sur dtl. Puis en combinant cette expression-là, en la changeant légèrement, on trouve finalement que tl égale à 2 pi fois racine carrée de dtl au cube sur g fois mt. On fait l'application numérique en faisant attention que tout soit dans les unités du système international, c'est-à-dire la distance doit être en mètres et à 99%. Quand on est sur des exercices comme celui-là, la distance va être donnée en kilomètres. Donc on pense bien à la mettre en mètres, on n'oublie pas le cube sur la calculatrice, et après on y va, tout est dans la bonne unité, sinon en exprimant tout convenablement, on trouve donc TL qui va être dans l'unité aussi internationale d'une durée, d'un temps, c'est-à-dire la seconde, ce qui nous donne 2,37 fois 10 puissance 6 secondes environ. Question 1.2. Comparer la valeur de TL à la période de rotation de la Lune sur elle-même, PL. Alors dans les données, on avait PL qui est de 27,3 jours. Donc on convertit cette donnée en secondes pour pouvoir la comparer avec TL. On compare toujours ce qui est comparable. Dans un jour, il y a 24 heures. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Ce qui nous donne 27,3 fois 24 fois 3600, soit environ 2,36 fois 10 puissance 6 secondes. On avait trouvé tout à l'heure pour TL, 2,37 fois 10 puissance 6 secondes, ces résultats sont extrêmement proches. Pour s'en convaincre, on peut par exemple calculer un écart relatif, qui est donc l'écart entre la valeur TL, la valeur PL divisée par la valeur PL, ce qui fait un écart seulement de 0,6%. Question 1.3, donc qui est en annexe, 2 à rendre avec la copie. On nous dit d'ajouter la position de la Lune et du point P, donc qui est représenté le point P, aux dates PL sur 4, PL sur 2 et 3 PL sur 4 en justifiant votre réponse. En déduire dans le cadre de ce modèle pourquoi on parle de face cachée de la Lune. Donc à t égale 0 jour, la Lune est dans la position qui est indiquée avec le point P dans la position qui est également indiquée. Donc au bout, en une durée donc, qui est égale à PL sur 4, donc la Lune va faire un quart de tour sur elle-même. Donc on représente le point P à APL sur 4 qui a fait un quart de tour sur lui-même, APL sur 2 encore un quart de tour sur elle-même, la Lune, et puis à 3PL sur 4 qui aura fait donc trois quarts de tour sur elle-même. Et donc comme PL sur 4 égale à TL sur 4, en même temps, par exemple à TL sur 4, la Lune aura parcouru un quart de son orbite. PL sur 2, la moitié de son orbite, et 3PL sur 4, 3 quarts de son orbite. Et donc on observe que le point P, il est toujours situé sur une face de la Lune, toujours cachée, ce qui explique qu'on voit toujours la même face de la Lune, qu'on appelle aussi la face cachée de la Lune. Ça, c'était la question donc 1.3. Passons donc à la question, à la partie 2, à la question 2.1, donc observation de la Lune depuis la Terre avec donc la notion importante de lunettes astronomiques. Alors, on nous demande de calculer l'angle θ sous lequel est vu le cratère Tycho depuis la Terre, en déduire s'il est possible de distinguer les contours du cratère à l'œil nu. Alors, pour cela, on nous parle du pouvoir séparateur de l'œil humain, présenté comme l'angle, la valeur minimum de l'angle θ, qui est supposé petit, donc on va pouvoir dire que tangente θ du coup est à peu près égal à θ, donc sous lequel l'œil peut distinguer deux points lumineux A et B, et donc il faut que epsilon, ce pouvoir séparateur, il soit au moins égal à 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians pour qu'on puisse distinguer deux points lumineux A et B. Alors pour cela, on va calculer donc la tangente de l'angle, comme on le disait. Donc tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent, donc c'est AB sur DTL. Donc AB, on nous le donne au niveau du cratère, c'est 86 km. La distance Terre-Lune est la même qu'on a utilisée dans la première partie, donc 3,844 x 10 puissance 5 km. On vérifie bien que pour avoir un angle en radian, il faut que les deux distances soient dans la même unité, à savoir ici les kilomètres. On trouve 2,2 x 10 puissance moins 4 radians. On compare à la valeur du pouvoir séparateur de l'œil humain qui est environ donc, de 2,9 x 10 puissance moins 4 radians. On est dans le cas où θ est inférieur à la valeur minimale qu'il faudrait pour pouvoir distinguer des contours. Et donc on peut conclure que ce diamètre apparent il est trop petit pour que les contours du cratère Tycho soient visibles, en tout cas à l'œil nu. Question 2.2. Parmi les deux lentilles utilisées, identifiez celle qui joue le rôle de l'oculaire et celle qui joue le rôle de l'objectif. On est sur l'annexe donc 3 à rendre avec la copie. L'objet A infini, B infini, on a la lentille L1 et la lentille convergente L2. Donc du côté de l'objet infini, B infini, on trouve la lentille L1, donc il s'agit du côté de l'objet, donc de l'objectif. Et au contraire, on va placer l'oculaire à la fin, entre guillemets, de notre lunette, du côté de la lentille, donc L2, donc notre œil, la lentille L2 constitue donc l'oculaire. Donc question 2.3. Donc on nous disait sur le schéma, donc toujours en annexe, de construire la marge d'un faisceau lumineux considéré à l'infini et de faire apparaître l'image intermédiaire. Donc si l'objet est situé à l'infini, à infini, B infini, alors l'image A1, B1, on sait qu'elle va se situer dans le plan focal image de la lentille L1. C'est-à-dire que A1 va être confondu avec F'1 et B1. Pour avoir B1, on va tracer donc un rayon lumineux qui passe par le centre optique de L1 et on sait qu'il n'est pas dévié. Donc à l'intersection du plan focal image avec ce rayon qui n'est pas dévié, on va trouver le point B1. Puis après, on sait que en sortie après l'oculaire, après la lentille L2, tous les rayons vont sortir qui émergent de B1 parallèles entre eux. Et donc on peut ainsi construire la fin du faisceau. On a ainsi construit l'image intermédiaire A1 B1 ainsi que les rayons qui sortent de la lentille et qui sortent tous parallèles entre eux. Question 2.4, expliquer pourquoi cette lunette est qualifiée d'afocale et justifier l'intérêt de ce réglage. Donc un instrument d'optique afocale va donner une image définitive située à l'infini d'un objet qui est à l'infini. Et l'intérêt, c'est que cette image donc définitive, elle est à l'infini, donc l'œil n'a pas besoin d'accommoder pour la regarder, donc on va pouvoir observer les détails par exemple de la Lune sans se fatiguer, sans fatiguer notre œil. Question 2.5, question classique à connaître par cœur, le grossissement en fonction de θ' et θ, g égale θ' sur θ. Donc après on nous dit que le grossissement de la lunette, donc on peut nous demander cette démonstration très classique à savoir faire aussi, de montrer que le grossissement de la lunette c'est la distance focale de l'objectif sur la distance focale de l'oculaire, donc f'obj sur f'oc. Donc là, on ne nous la demande pas, cette démonstration, mais souvent, on nous la demande quand on a un exercice sur la lunette astronomique. Alors là, il fallait déterminer donc la valeur limite de la distance focale de l'oculaire qu'il faut associer donc à un objectif de distance focale. Donc la distance focale de l'objectif, on la connaît, c'est 300 mm, pour pouvoir distinguer l'ensemble des montagnes qui occupent le centre du cratère Tycho. Alors on nous dit que l'ensemble des montagnes, elles s'étendent donc sur une quinzaine de kilomètres. Donc déjà à l'œil nu, on peut calculer l'angle donc sous lequel est vu l'ensemble des montagnes. Donc tangente θ, c'est toujours à peu près égal à θ. Et donc ça vaut donc là ici cette fois 15 sur donc la distance toujours Terre-Lune qui n'a pas bougé. 3,844 fois 10 puissance 5, on trouve un angle θ à l'œil nu de 3,9 fois 10 puissance moins 5 radians. Pour pouvoir distinguer, on sait qu'il faut être au moins à 2,9 fois 10 moins 4 radians, donc on va se prendre cette limite-là, donc cette limite de 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians, et on va utiliser les deux définitions du grandissement. Soit le grandissement, c'est f' objectif sur f' oculaire, soit c'est θ' sur θ. Les deux sont égales au grandissement. Donc on peut mettre une égalité, f' op sur f' oc égale θ' sur θ. Puis après, on va utiliser cette relation-là pour trouver f' oc par produit en croix, f' objectif fois θ sur θ'. Donc f' objectif, on le sait, c'est 300 mm, on peut laisser en millimètres, ce qui veut dire que le f' oc que l'on va trouver sera en millimètres. Θ, donc cet angle, on l'a calculé pour les montagnes, c'est 3,9 fois 10 puissance moins 5 radians sur θ prime, donc θ prime pour être vu, c'est 2,9 comme on l'a dit fois 10 puissance moins 4, ce qui donne 40 mm au maximum pour la distance focale de l'oculaire. On vérifie bien que le résultat est bien cohérent puisque la distance focale de l'oculaire doit être inférieure à la distance focale de l'objectif pour avoir un grossissement donc supérieur à 1. À bientôt.